Bonjour chers auditeurs, voici l'émission Visage de la Bible. Catherine Mann au micro pour vous proposer de feuilleter la Bible comme un album de famille, celui d'une grande famille spirituelle, où nous allons nous attarder sur quelques visages d'hommes et de femmes, en choisissant plutôt de mettre en lumière ceux qui ne sont pas très connus, mais qui méritent pourtant de l'être, ou en tout cas, qui méritent que l'on s'y intéresse. Car dans la Bible, tout a son importance. Nous continuons donc de tourner les pages bibliques et nous nous arrêtons aujourd'hui sur un vénérable visage, celui d'Aaron, le frère de Moïse. Aaron, comme Moïse, est né en Égypte, hein, où les Hébreux étaient réfugiés à cause d'une terrible période de famine. Et là, leur peuple s'était installé, bien installé. Dans le chapitre 47 déjà de la Genèse, on lisait « Israël habita au pays d'Égypte en terre de Goshen. Les Israélites y devinrent propriétaires. Ils y furent féconds et très prolifiques. » Et encore, la même remarque se trouve au début du livre de l'Exode. « Les fils d'Israël fructifièrent, se développèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus forts. » Le pays d'Égypte en était rempli. Voilà, donc, si au début leur intégration fut harmonieuse, apparemment, les choses vont changer quand leur nombre commença à faire peur aux Égyptiens. Nous lisons alors en Exode, chapitre 1, verset 8, qu'un nouveau roi d'Égypte s'inquiète en disant « Voici que le peuple des fils d'Israël est trop nombreux et trop fort pour nous. Prenons donc de sages mesures contre lui pour qu'il cesse de se multiplier. » Donc à partir de ce moment, les Égyptiens reçurent l'ordre de brimer les fils d'Israël, de les exploiter avec brutalité et de faire de leur vie une dure servitude. Et par-dessus tout ça vient une mesure encore plus extrême que l'on trouve au verset 15. Le roi d'Égypte dit aux sages femmes des Hébreux, l'une s'appelait Shifra et l'autre Poua, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, regardez le sexe de l'enfant, et si c'est un garçon, faites-le mourir. » Alors, mais en fait, les sages-femmes ne vont pas du tout obéir à cet ordre du Pharaon, elles le trouvent trop effrayant, elles vont invoquer le fait que les femmes des Hébreux sont assez solides pour accoucher seules, et qu'il ne leur est jamais possible d'intervenir à temps. Alors, évidemment, le pharaon ne les croit pas, et comme le peuple hébreu continue de se multiplier, il va prendre des mesures encore plus radicales. Et nous lisons alors au verset 22, « Pharaon ordonna à tout son peuple, tout garçon nouveau-né, jetez-le au fleuve. » Voilà, nous connaissons tous à partir de là l'histoire de Moïse qui à ce moment-là sera jeté au fleuve, mais qui sera sauvé par la fille de Pharaon. Mais d'Aaron, son frère, on ne nous dit rien. Donc par déduction, on en conclut qu'Aaron était plus âgé. Ça devait être le frère aîné de Moïse, qui donc avait pu échapper au carnage pendant le petit intervalle où les sages-femmes ne faisaient rien. Et nous verrons ailleurs, d'ailleurs, qu'il y avait aussi une sœur aînée, Myriam. Alors, leur père s'appelait Amram et leur mère Jochebed. Et au chapitre 6 du livre de l'Exode, nous avons une liste généalogique des 12 fils de Jacob, où nous voyons donc qu'Amram est arrière-petit-fils de Lévi. Donc Moïse et Aaron sont eux aussi des descendants de Lévi, les Lévites, qui ont un destin bien particulier parmi les 12 tribus. La première fois que la Bible va évoquer Aaron, c'est en fait au chapitre 4 de l'Exode, quand le Seigneur Dieu impose à Moïse d'être son envoyé pour aller parler aux fils d'Israël. Mais Moïse va essayer de refuser la mission. Il enchaînera toutes les objections possibles. Je cite, « Ils ne me croiront pas, il leur faudra des preuves, des signes. » Et enfin, au chapitre 4, verset 10, « Je ne suis pas doué pour la parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, j'ai la bouche lourde et la langue lourde. » Voilà. Mais à tout cela, Dieu répond qu'il aidera, qu'il interviendra pour le soutenir. Mais malheureusement, rien n'y fait. Moïse continue d'objecter. Verset 13, « Je t'en prie, Seigneur, envoie n'importe qui d'autre pour parler. » Alors, lisons la suite du texte. C'est intéressant. « La colère du Seigneur s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite ? Je sais que lui a la parole facile. Le voici même qui sort à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira en son cœur. Tu lui parleras, tu mettras les paroles en sa bouche. Et moi, je suis avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous ferez. Lui parlera pour toi au peuple, il sera ta bouche et tu seras son Dieu. » Alors, nous sommes là vraiment dans la description de la première fonction qui va incomber à Aaron. Il sera médiateur du grand médiateur qu'est Moïse. Un rôle de second, donc, a priori, mais qui quand même le conduira parfois à devoir prendre certaines responsabilités. Et le travail va commencer aussitôt, comme nous pouvons le lire dès le verset 27, je lis. Le Seigneur dit à Aaron, « Va à la rencontre de Moïse au désert. » Il alla, il l'aborda, il alla à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse mit Aaron au courant de toutes les paroles que le Seigneur l'avait envoyé dire et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron allèrent réunir tous les anciens des fils d'Israël et Aaron redit toutes les paroles que le Seigneur avait adressées à Moïse. Et il réalisa les signes sous les yeux du peuple, et le peuple crut. Ayant compris que le Seigneur était intervenu en faveur des fils d'Israël, qu'il avait vu leur misère, ils s'agenouillèrent et se prosternèrent. Voilà, donc nous pouvons remarquer dans ce passage que la première tâche d'Aaron est donc de présenter Moïse au peuple hébreu. Parce qu'en effet, rappelons-nous que celui-ci, Moïse n'avait pas vécu au milieu d'eux, mais avec les Égyptiens, peut-être à la cour de la fille de Pharaon, et ensuite, quand il dut fuir, il se réfugia à Madian. Donc, ce sont d'abord des retrouvailles entre les deux frères, après une longue séparation, et ensuite, des retrouvailles entre Moïse et son peuple, dont Aaron fut le médiateur. Reprenons donc la lecture du texte biblique, cette fois au chapitre 7 du livre de l'Exode, où l'on voit que Dieu envoie Moïse vers Pharaon pour tenter de le convaincre de libérer les fils d'Israël et de les laisser sortir d'Égypte. Mais voici que Moïse recommence ses objections. Moïse dit devant le Seigneur, « Je n'ai pas la parole facile, comment Pharaon m'écouterait-il ? » Alors, bien évidemment, Dieu lui aussi va de nouveau insister. Lisons le texte. « Le Seigneur dit à Moïse, « Vois, j'ai fait de toi un Dieu pour Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. C'est toi qui diras tout ce que j'ordonnerai, et ton frère Aaron parlera à Pharaon pour qu'il laisse partir de son pays les fils d'Israël. Donc ici, le rôle d'Aaron est présenté comme celui d'un prophète. Littéralement, ce mot signifie « porte-parole ». C'est lui qui doit transmettre fidèlement les paroles de Dieu que seul Moïse aura entendues. Le verset 6, un peu plus loin, conclut ainsi. « Moïse et Aaron firent ainsi, ils firent exactement ce que le Seigneur leur avait ordonné. Moïse avait alors 80 ans et Aaron 83 quand ils parlèrent à Pharaon. » Avec ce texte, nous savons maintenant qu'Aaron avait en fait 3 ans de plus que Moïse. Et surtout que ce sont déjà 2 vénérables vieillards qui vont aller affronter ensemble la dureté du cœur de Pharaon et la puissance de ses magiciens. Alors, nous connaissons bien ce qui vient après, les 10 miracles que Dieu leur fait produire pour convaincre ces Égyptiens des fléaux que Dieu ordonne à Moïse, mais qui seront surtout réalisés par Aaron, avec toujours le même rituel de fonctionnement. Je vous lis, donc c'est « Le Seigneur dit à Moïse, dis à Aaron, prends ton bâton et tends-le sur, etc. » Donc, on voit là qu'Aaron n'est pas seulement un porte-parole, il est aussi un bras agissant qui réalise les plaies infligées aux Égyptiens que Dieu a ordonné. Pourtant, Moïse lui-même devra aussi faire un geste qui semble lui être assez spécifique. Il doit lever les mains vers le ciel. Nous voyons cela, par exemple, à la 9e plaie d'Égypte, où le Seigneur dit à Moïse, « Étends les mains vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur tout le pays. » Et nous retrouvons encore ce geste de Moïse au chapitre 17 de l'Exode. Là, nous sommes dans le désert quand les Hébreux sont attaqués par des Amalécites, qui sont leurs redoutables ennemis. Moïse se tient alors avec Hur et Aaron sur le sommet d'une colline pour diriger les combats. Alors, lisons ce passage au verset 11 du chapitre 17. « Quand Moïse élevait les mains vers le ciel, Israël était le plus fort. » Quand il baissait les mains, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse se faisaient lourdes. Alors on prit une pierre pour le placer sous lui, et il s'assit dessus. Et Aaron et Hur, chacun d'un côté, soutenaient ses mains levées. Voilà donc Aaron comme soutien physique du geste de prière de Moïse, avec un certain Hur qui lui sera plusieurs fois associé par la suite. Donc Aaron est le fidèle second. Il n'a aucune initiative à prendre autre que de seconder son frère et lui obéir en tout, bien qu'il soit l'aîné. Et cela semble se confirmer même quand Moïse va être appelé par Dieu vers le mont Sinaï pour y recevoir les tables de la loi. Nous pouvons lire par exemple en Exode 19, verset 24, « Redescends vers le peuple, puis tu remonteras, toi et Aaron avec toi. Quant aux prêtres et au peuple, qu'ils ne se précipitent pas pour monter vers le Seigneur, de peur qu'ils ne s'emportent contre eux. » Voilà, donc on fait une différence entre Aaron et le peuple. Mais était-il aux côtés de Moïse quand il reçoit la loi? Il semble bien que non, quand même. Même si le verset montre qu'il est au moins une fois monté avec son frère à la rencontre de Dieu sur le Sinaï, mais on ne sait pas jusqu'où. En tout cas, au chapitre 24 de l'Exode, on nous présente les choses un peu différemment. Il est écrit « Le Seigneur avait dit à Moïse, monte vers le Seigneur, toi, Aaron, Nadav et Abihu, ainsi que 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse seul approchera le Seigneur, eux n'approcheront pas et le peuple ne montera pas avec lui. » Voilà, donc ici, Aaron et quelques anciens d'Israël ont seulement pu accompagner Moïse jusqu'à une certaine distance du lieu de la rencontre, là où Dieu va dicter sa loi. Le verset 9 précise encore, Moïse monta, ainsi qu'Aaron, Nadav, Abihu et les 70 anciens, ils virent le Dieu d'Israël, et sous ses pieds était comme une sorte de pavement de saphir d'une limpidité semblable au fond du ciel. Sur ces privilégiés des fils d'Israël, Dieu ne porta pas la main et ils purent le contempler. Voilà. Là, Aaron n'est pas associé à Moïse, mais il est associé aux autres. C'est un privilégié parmi les autres. Et ensuite, Moïse reste seul pour monter vers Dieu. Et on lit au verset 14 qu'il se retourne et dit « Voici que Aaron et Hur vont rester avec vous, que celui qui a une affaire à régler s'adresse à eux. » Et voilà, et il part. En effet, il y aura des choses à régler et Aaron aura à prendre certaines responsabilités. Continuons de regarder le visage qu'Aaron nous montre à partir du chapitre 25 de l'Exode. Moïse est donc sur le mont Sinaï. Il y est depuis plusieurs semaines à recevoir toutes les instructions pour la loi et pour le culte en Israël. Et nous voyons au chapitre 28 que Dieu dit à Moïse ce qui concernera Aaron. « Tu prendras, dit Dieu aussi, près de toi, ton frère Aaron et ses fils avec lui du milieu des fils d'Israël pour qu'il exerce mon sacerdoce. Tu feras pour ton frère Aaron des vêtements sacrés en signe de gloire et de majesté. » Alors, à partir de là, tout le chapitre 28 de l'Exode, il est assez long d'ailleurs, il décrit les vêtements liturgiques qu'Aaron devra porter comme premier grand prêtre parmi les Hébreux. Il sera vêtu somptueusement avec des tissus luxueux, brodés, ornés, couverts de bijoux d'or et de pierres précieuses. Ensuite, tout le chapitre 29 va décrire les rites de consécration et d'investiture d'Aaron et de ses fils comme prêtres. Le déferlement de luxe que Dieu demande pour son clergé est destiné à mettre en avant l'importance de leur fonction qui doit impressionner le peuple. Et encore les deux chapitres suivants dans l'Exode vont ajouter la description de tout ce qui sera nécessaire pour l'accomplissement des rites. En fait, ce que nous connaissons toujours aujourd'hui d'ailleurs dans les rites chrétiens, il y a le bassin d'eau pour les ablutions rituelles, l'autel pour les sacrifices, les parfums d'encens, le chandelier, les huiles d'onction, l'organisation de la quête et la sanctification du jour du sabbat. Bref, tout cet enseignement que Dieu donne à Moïse sur le mont Sinaï est long et ça prend du temps, beaucoup de temps, des semaines, de sorte qu'au chapitre 32, nous lisons que le peuple perd patience et ne croit plus au retour de Moïse. Je vous lis. Le peuple s'assembla près d'Aaron et lui dit « Debout, fais-nous des dieux qui marchent à notre tête, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Voilà. Aaron, pris à partie par le peuple, est mis devant une obligation d'intervenir. Il doit décider, prendre les responsabilités, mais que va-t-il décider ? En fait, il va obéir à la pression du peuple et va récolter tout l'or qu'ils ont pour en façonner la statue d'un jeune taureau, un veau d'or, dans lequel le peuple, alors satisfait, va reconnaître la vraie présence de Dieu. Et de plus, le verset 5 de ce chapitre ajoute: Aaron bâtit un autel en face de la statue, puis Aaron proclama: Demain, fête pour le Seigneur. Et le lendemain, dès leur lever, ils offrirent des holocaustes et amenèrent des sacrifices. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis se leva pour se divertir. Voilà. Pour une fois qu'Aaron doit prendre seul une décision, on peut dire qu'il fait vraiment n'importe quoi. En fait, il cède à la volonté populaire pour éviter les problèmes. Mais la colère de Dieu ne va pas tarder à se manifester. Alors Dieu fait redescendre Moïse en catastrophe et décide la mise à mort des meneurs de ce qui est en fait une révolte. Moïse va briser les tables de la loi qu'il avait avec lui et demande des comptes à Aaron. Je vous lis. Que t'a fait ce peuple pour que tu l'amènes et que tu amènes sur lui un grand péché? Alors, malgré ses regrets et les explications d'Aaron, Moïse va organiser la mise à mort de 3 000 coupables. Et le chapitre 32 se termine sur ces mots. Et le Seigneur frappa le peuple pour avoir fabriqué le veau, celui qu'Aaron avait fait. Mais paradoxalement, Aaron, lui, ne sera pas puni. Et plus tard, il sera institué grand prêtre, et ses fils seront les prêtres, et le sacerdoce ne quittera jamais la maison d'Aaron. Le choix de Dieu est plus fort que la sottise qu'a fait Aaron avec le veau d'or. En fait, il semble qu'il ait agi de bonne foi, obéissant à des revendications, parce qu'il ne les maîtrisait pas. C'était sans doute un peu dans son caractère que d'être obéissant aux circonstances, surtout d'aimer rendre service au peuple. Il sera bien à sa place comme grand prêtre, serviteur docilement soumis à Dieu. Cela n'empêcha pas que, un peu plus tard, deux de ses fils prêtres se conduiront mal devant le Seigneur et que Dieu va les mettre à mort. Mais voilà, ça se trouve dans le Lévitique au chapitre 10. Alors, ce n'est pas le seul épisode de la Bible où on voit Aaron compromis dans une sorte de révolte et pourtant ne pas être lui-même puni. Nous pouvons lire aussi dans le livre des Nombres au chapitre 12 un épisode qui se situe dans le désert. Juste après que le peuple se mit à réclamer de la viande, parce qu'ils en avaient eu beaucoup en Égypte et ça, ils regrettaient. Alors Dieu les exauce en leur envoyant des cailles, tout en désapprouvant leur avidité. C'est à ce moment-là que nous pouvons lire: Myriam et aussi Aaron critiqua Moïse à cause de la femme cushite qu'il avait épousée. Ils dirent: Est-ce donc à Moïse seul que le Seigneur a parlé? Ne nous a-t-il pas parlé à nous aussi? Voilà, ici donc nous voyons Myriam, la grande sœur de Moïse, qui est à l'origine d'une récrimination contre son frère. Elle conteste en fait l'autorité de Moïse et veut se mettre au même niveau de responsabilité que lui. Et apparemment, Aaron la suit. En tout cas, évidemment, la colère de Dieu ne va pas tarder à se manifester. Et ils sont tous les deux convoqués à la tente de réunion pour entendre ce que Dieu veut leur dire. Je vous lis la parole de Dieu sur eux. C'est mon serviteur Moïse qui est mon homme de confiance pour toute ma maison. Je lui parle de vive voix, dans une vision claire et non pas en énigme. Il voit la forme même du Seigneur. Comment donc osez-vous critiquer mon serviteur Moïse? Et le Seigneur s'enflamma de colère contre eux et s'en alla. La nuée se retira du dessus de la tente, et voilà que Myriam était devenue lépreuse. Elle était blanche comme la neige. Aaron se tourna vers elle et vit qu'elle avait la lèpre. Alors il dit à Moïse: Ô mon Seigneur, je t'en prie, ne fais pas retomber sur nous le péché que nous avons commis, insensés et pécheurs que nous sommes, que Myriam ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à demi rongée lorsqu'il sort du sein de sa mère. » Voilà, donc Aaron demande l'intercession de Moïse. C'est vrai que la lèpre est une terrible punition pour Myriam. Mais avez-vous remarqué qu'Aaron, lui, n'est pas atteint, qu'il n'est en fait pas du tout puni? Il vient demander à son frère Moïse d'intercéder pour Myriam, et la prière de Moïse, effectivement, obtiendra que la punition de sa sœur soit levée au bout de 7 jours, après quoi elle put retrouver une vie normale. Mais pourquoi Aaron n'a-t-il eu aucun châtiment? Probablement parce que Dieu a reconnu qu'il avait apparemment suivi sa sœur, qu'il avait été soumis à son influence, finalement que c'est son caractère serviable et solidaire qui l'a entraîné vers une mauvaise cause. Mais en fait, ce caractère doit être bon en soi et utile pour ce que le Seigneur attend de lui. En tout cas, nous avons là clairement 2 poids, 2 mesures. Mais Aaron, toujours solidaire de Myriam, fera très humblement preuve d'un sincère repentir pour eux deux. Encore un trait de caractère à mettre à son actif. C'est un homme qui aimait vraiment être attentif aux autres, à leur service, que ce soit de son frère Moïse, de sa sœur, au service de Dieu, bien sûr, au service de son peuple, et après, bien sûr, en tant que grand prêtre. Et même s'il a pu faire quelques erreurs de jugement, sa vie témoignera toujours de cette belle générosité de cœur, de son altruisme et de son dévouement aux autres. Alors je vous propose maintenant de terminer notre émission en écoutant le début de bel opéra d'Arnold Schoenberg, musique contemporaine, l'opéra Moïse et Aaron de 1930. Et dès à présent, je vous dis au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt.
Lass mich in Ruhe, meine Schar.